Si je vous dis arriver demain, bah vous me dites, bah oui, c'est cohérent, on comprend ce que ça veut dire. Mais arriver demain, c'est un projet magnifique, des 3e B et D, mené de front avec Laetitia Cross, professeure documentaliste, et puis Valérie Breda-Brun, professeure de lettres, toutes deux au Collège Henri Laugier à Fort-Calquier. Arriver demain.
Le projet Arriver Demain est un projet que nous menons maintenant depuis 4 ans au Collège de Fort-Calquier, en classe de 3e, en lien avec la MEMO, la Maison d'Histoire et de Mémoire d'Angles. Et c'est un projet qui est en grande partie financé par l'ONAC, l'ONAC-VG. L'ONAC-VG, c'est l'Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre. Ce ne sont pas que des vieux barbus, moustachus, aigris, ce sont aussi des historiens qui proposent une dynamique d'enseignement de la mémoire et qui proposent du coup des rencontres. Des rencontres pour les jeunes, pour les scolaires, avec notamment là à la Mémo, à Angles, des témoins donc de la guerre d'Algérie. Ce qui permet en fait de personnaliser, de rendre vivant l'enseignement de l'histoire, de le rendre palpable.
Valérie Breda-Brun, vous enseignez quelle matière ?
Le français.
Le français, vous êtes professeur de lettres. Vous êtes associée avec la documentaliste, vous pouvez nous la présenter ?
Avec la professeure documentaliste, on a la même façon on a la même perception du métier. C'est-à-dire, on est pour une pédagogie qui permette, par le projet, à chaque élève de trouver sa place, son rythme, sa dynamique. La pertinence. Et comme ça, on peut travailler à la fois effectivement l'écriture, la maîtrise de la langue, mais aussi la recherche documentaire. C'est intéressant en fait de voir comment les élèves arrivent à convoquer des compétences sans les cloisonner. Donc nous travaillons beaucoup au CDI et les élèves savent très bien se repérer, donc d'une part dans la recherche documentaire, d'autre part dans l'écriture, sans avoir de grilles à remplir, de fiches de compétences, voilà, à même, tout seul, de se servir. Et de convoquer leur savoir.
Cette confrontation à la mémoire d'un passé qui a été très très marqué dans la région, on pense notamment aux Harkis de Angles et puis toute cette période du début des années 60 qui a été marquée beaucoup par la fin de la guerre d'Algérie. Comment les élèves perçoivent cette période ?
La guerre d'Algérie est au programme du collège en histoire géo, en quatrième d'une part pour la colonisation et en troisième pour la décolonisation. C'est un exemple de décolonisation. Tous les enseignants ne sont pas obligés de choisir l'exemple de la guerre d'Algérie. Il est intéressant aujourd'hui de croiser, c'est l'enseignement de cette histoire nationale, internationale, avec l'histoire locale. Donc nous ne l'approchons pas comme l'enseignement de la guerre d'Algérie. On l'approche plutôt par l'éducation morale et civique, c'est-à-dire prendre l'exemple d'un petit village de 300 et quelques habitants qui a su accueillir, tant bien que mal, qui a su se débrouiller, qui a su s'investir, réagir à l'arrivée d'à peu près la moitié de sa population en plus. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 150 personnes qui sont arrivées toujours au lendemain.
On n'a rien de temps.
Ils ont été prévenus en 24 heures. Et du coup, nous, on aborde cette problématique sur comment on accueille aujourd'hui.
Vous parlez évidemment du village de Angles.
Tout à fait.
Et justement, cette éducation, comment on accueille à nouveau aujourd'hui avec toutes les problématiques, on le sait, il y a eu des gens qui sont morts dans la montagne, il y a aussi un nouveau phénomène de migration. Est-ce que vous faites un parallèle ou carrément une connexion avec ce type d'événement, c'est-à-dire que l'histoire nous apprend à vivre aussi dans le présent ?
Alors, dans le cadre des programmes d'enseignement du français, en troisième, nous avons divers objets d'études qui nous le permettent.
Comment s'appelle ce projet ?
Alors, ce projet s'appelle « Arriver demain ». On conserve en fait ce même intitulé d'année en année, même si chaque année, on revoit en fait l'enveloppe même du projet, ce qu'on va proposer aux élèves, de façon à être au plus près en fait aussi de l'actualité, comme on le disait tout à l'heure, et de pouvoir travailler le mieux possible en adéquation avec les profils des classes.
Quelles sont les classes qui participent à ce projet ?
En 2019-2020, on a travaillé avec deux classes
de troisième.
Deux classes de troisième. Sinon, toutes les deux, la même enseignante de lettres et des enseignantes d'histoire différentes.
Vous êtes Laetitia Cross, vous êtes professeure documentaliste, et puis Valérie Breda-Brun, qui est associée aussi au projet, qui est professeure de lettres. Est-ce que vous pouvez me parler du partenariat que vous avez eu, notamment avec l'ONAC VG, le Mémo, et puis l'association aussi, la Miroiterie, et puis Fréquence Mistral, nous on est là, on sait ce qu'on fait, on fait de la radio et on va diffuser votre superbe travail.
L'objectif dans un projet comme celui-ci, c'est à la fois de trouver des financements, c'est un peu le nerf de la guerre, puis de trouver en fait un partenariat qui va nous permettre de constituer la matière nécessaire pour mener à bien le projet de A à Z. Il s'avère que ce projet, il débute par une sortie dans le village de Hongle, au mois d'octobre en règle générale. À ce moment-là, c'est l'ONAC VG en fait qui finance notre déplacement et coordonne avec nous et avec la Mémo ce qui va être proposé aux élèves pendant cette journée. À la fois la visite de la Mémo, la visite de l'ancien hameau de forestage, et puis la visite d'une exposition qui est réalisée par les historiens de l'ONAC VG, et enfin la visite du hameau de forestage. C'est-à-dire que c'est une journée où les élèves sont en mouvement, à la fois dans le village de Hongle, mais aussi dans l'histoire et dans leur relation avec l'ONAC VG, nous finance et nous permet de rencontrer des témoins de la guerre d'Algérie et des témoins de l'arrivée à Hongle. C'est-à-dire qu'on essaie aussi de permettre aux élèves d'avoir des témoignages très variés et de personnes d'horizons totalement différents. Des pieds noirs, des enfants de harkis, des appelés, mais aussi des habitants de Hongle qui ont été témoins de l'arrivée de ces familles en 1962. Ensuite, la Mémo, qui est notre deuxième partenaire privilégié, maison d'histoire et de mémoire de Hongle, c'est un partenaire en fait avec lequel on imagine notamment cette journée bien évidemment et puis la visite en fait du musée. Évidemment, on n'arrive pas au musée sans l'avoir préparé, et encore une fois là, on a eu une réflexion d'équipe et une réflexion interdisciplinaire sur cette visite pour que les élèves tirent au maximum profit d'une visite qui soit accompagnée et qui, encore une fois, va leur permettre d'emmagasiner des images, des informations, des émotions qui vont être ensuite cette matière dont on parlait tout à l'heure pour la réalisation d'écrits en français par la suite et au collège. On a un dernier partenaire privilégié qui est l'association La Miroiterie. Alors là, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec La Miroiterie qui est basée à Fort-Calquier. Habituellement, on travaille autour de l'image. Et cette année, on avait décidé de travailler sur le son, sur la voix. Puisqu'on avait envie en fait que les élèves en fait écrivent des textes collectifs, mais que ces textes soient écrits dans l'idée de pouvoir les lire à haute voix ensuite. Et on souhaitait avoir des enregistrements sonores pour justement soutenir en fait la valorisation de ce projet qui est totalement indispensable dans les principes d'une pédagogie par projet. Et on a un dernier partenaire, Fréquence Mistral, qui a répondu positivement en fait à notre demande, puisque lorsqu'on a monté le projet, on ne savait pas très bien comment on allait mettre en valeur ces enregistrements audio. Est-ce qu'on allait les diffuser sur le site du collège? Est-ce qu'on allait en faire une diffusion dans l'espace public? Voilà, tout ça, c'est quelque chose qu'on imagine aussi avec les élèves. C'est pour ça que les choses ne sont pas prédéfinies. On monte ce projet avec les élèves. Et petit à petit, on a réalisé en fait que le média qu'est la radio pouvait être un excellent soutien à ce projet. Et les élèves ont tout de suite adhéré.
Arrivé demain. 1962, fin de la guerre d'Algérie, le maire d'Ong, le petit village d'environ 300 habitants, annonce l'arrivée de 25 familles de harkis. Ils arrivent demain. Des collégiens vous proposent leurs histoires d'exil et d'accueil, après un travail d'écriture sur des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Rapatrier, accueillir, connaître, traverser, s'exiler, transmettre. Arriver demain.
Accueillir. C'était un jour comme les autres, sur la colline, au-dessus du village. Un village désert, ou presque, avec son école vide, qui menace de fermer, ses rues pavées, ses maisons faites de pierre, sa belle fontaine avec son eau claire, et sur ses collines, des champs couverts d'oliviers. Autour, une multitude de terres, avec du blé et de lavande. Pendant le conseil municipal, le maire annonça que 25 familles de harkis arriveraient demain. Gérard rentra chez lui, sans savoir comment annoncer l'arrivée, le lendemain, de familles qui viendraient bouleverser leur quotidien. Le lendemain, il n'avait pas su annoncer cette invasion d'étrangers. Ses enfants et lui allèrent au village et ils aperçurent un convoi d'autocars.
« Papa, c'est qui ?»«
Ce sont des harkis venus d'Algérie. »«
Mais qu'est-ce qu'ils font là ?»«
Ce sont des gens qui se sont battus pour la France. Ils ont fui leur pays à cause de la guerre. »
Où vont-ils ?
Je ne sais pas.
Papa, j'ai peur.
Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer.
J'espère.
Je vais aller les voir.
Fais attention, papa.
Ne t'en fais pas.
Gérard s'avança vers le groupe des harkis qui descendait du car. Ils étaient fatigués, avec très peu de bagages. Il y avait des femmes mûres et des plus jeunes, des adolescentes et des enfants en bas âge. Mais aussi des hommes de tous les âges. Ils étaient habillés différemment. Les femmes avaient un foulard sur la tête, très peu de bijoux. Les hommes avaient des barbes foncées de plusieurs jours, les joues creusées et les traits tirés. Il y avait des enfants qui pleuraient. Ils avaient faim, soif, froid, autant que leurs parents. Les femmes et les hommes ne parlaient pas beaucoup. Ils étaient perdus. Gérard les observait en ressentant leur tristesse. Il se demandait s'il pouvait les approcher, quelle langue ils parlaient, et s'ils pouvaient se comprendre. Leur valise était si petite. Qu'avait-il bien pu emporter ? Lui, Gérard, il aurait emmené des vêtements, des couvertures, de la nourriture, mais eux n'avaient pris que quelques objets ou plantes qui pouvaient leur rappeler leur pays.
Après cette première rencontre, nous les avons invités à boire un café bien chaud tout en faisant connaissance. C'est à ce moment que j'ai appris qu'une des familles avait, en Algérie, des oliviers comme nous. Depuis ce jour, nos deux familles sont amies et travaillent ensemble.
Accueillir Héloïse, Chana, Mathis, Adrien, Corto, Cyril.
Arrivé demain.
Accueillir.
Chère grand-mère, ta présence me manque déjà. Je suis bien dans le bateau avec Saïd, que je surveille de près. Il est très excité à l'idée d'arriver en France. J'ai parlé avec un militaire qui m'a décrit la France comme un pays fabuleux et plein d'espoir. Là-bas, il y a de la nourriture pour tout le monde, il n'y a plus de conflits et il fait toujours beau, surtout dans le sud. J'espère que de ton côté tout va bien et que tu es en sécurité. J'ai été informée que nous nous accosterions très bientôt dans la ville de Marseille, où je pourrai poster cette lettre. J'essaierai de te tenir informée rapidement, je t'embrasse très fort. PS, tu pourras déposer des fleurs sur la tombe de papa et maman de notre part, Nadia. Un petit mot de Saïd.
Bonjour mamie, je suis content d'être partie, mais tu me manques beaucoup. Sur le bateau, je me suis fait des amis. Je suis pressée d'arriver en France. Bisous. Je t'aime.
Je relis la lettre, puis la plie et la range dans l'unique sac que j'ai pu emporter.
Je regarde le médaillon avec la photo de mes parents et le serre contre moi. Nous accostons au port de Marseille, qui est une magnifique ville ensoleillée, très peuplée, contrairement à mon village en Algérie. Nous sommes pris en charge par une équipe de militaires qui nous emmène dans des convois, vers un camp de réfugiés. Quelques jours plus tard, on nous annonce que nous allons être conduits dans un village des Basses Alpes, Ongles. Ce village a accepté de nous recevoir. Avant de partir, je supplie le commandant de ne pas être séparé de Saïd. Il accepte après quelques minutes de négociation. Le voyage est long, la route est distordue. Nous arrivons à Ongles très tôt le matin. Je suis étonnée par le froid et l'humidité. Le village est tout petit. Je ne m'attendais pas à ça. Nous sommes accueillis et le maire est heureux de notre arrivée. Les habitants nous dévisagent. Ils nous aident à installer nos tentes. On nous fait visiter le village qui ne contient qu'un bar et une épicerie. Saïd et les autres enfants sont inscrits à l'école primaire. Durant la nuit, une tempête de neige éclate. Les flocons tombent devant nos yeux pour la première fois. Saïd est émerveillé. Nous sommes déplacés et accueillis chez les habitants. Saïd et moi sommes accueillis chez l'épicier qui nous ouvre sa porte avec grand plaisir. Le lendemain, il me propose de travailler dans son magasin et j'accepte sans hésiter une seule seconde. Quelques semaines plus tard, Fred, l'épicier, me propose de nous adopter, Saïd et moi. Sa fille est décédée et il nous apprécie beaucoup. Je suis heureuse car grâce à lui, Saïd pourra vivre une enfance confortable. Et je pourrai peut-être avoir l'avenir dont j'ai toujours rêvé.
Accueillir. Valentin, Agathe, Jim, Faustine, Gaston et Marinette.
Arriver demain.
Connaître. Je suis en route pour l'Algérie. Nous naviguons dans les calabestiaux depuis 2 jours, dans des conditions déplorables. Ou bien 3, je ne sais plus. On est plutôt serré là-dedans. Il commence à se passer des choses. J'entends des moteurs. De camions, sûrement. On vient. On nous fait sortir par les portes. Nous devons immédiatement partir en camion. Le voyage est un peu long. On rejoint un camp militaire. Je retrouve mon frère, Jean, sortant d'un autre camion. On nous donne notre équipement, puis, plus tard, notre première mission. On m'envoie en éclaireur, avec Jean, sur ce territoire que nous ne connaissons pas. Une journée de marche au milieu des étendues arides et poussiéreuses, sans ombre, à perte de vue. Au détour d'un amas rocheux, nous apercevons une oasis. Enfin, nous décidons de nous y installer pour la nuit qui approche très rapidement. Bonne nuit, Jean.
Bonne nuit, Philippe.
Le lendemain, au petit matin, nous repartons en patrouille. Quelques heures de marche plus tard, nous voyons un canyon et décidons de passer à l'intérieur pour profiter de l'ombre. Tout à coup, j'entends une détonation, un sifflement. Tout se passe très vite. Je me fige. Je tourne la tête vers Jean. Sa tête se tourne vers moi. Après un regard désespéré, il s'écroule, le torse rouge. Je pars, je cours sans réfléchir, droit devant, peu importe la direction. Je ressens une douleur vive au mollet et, après avoir couru un long moment, je m'écroule, je vois trouble, une tache rouge sombre à ma jambe, puis plus rien. Des voix inconnues, des mots inconnus, j'ouvre un peu les yeux. Un lieu inconnu. Une vive douleur me réveille, pour de bon cette fois. Des dizaines de questions me passent par la tête, mais une chose à la fois. Après quelques temps de discussion avec les personnes qui m'entourent, je comprends qu'ils sont une famille algérienne, dont un soldat qui s'est battu pour la France. Ils m'ont soigné, l'homme ayant vu mon blason. Nous ne parlons pas la même langue, mais nous arrivons à nous comprendre. Ils savent qu'ils doivent quitter le continent, car ils sont en danger dans leur propre pays, ayant défendu la France. Après leur proposition, j'accepte de rejoindre l'Hexagone avec eux. Je n'ai plus rien qui me retient ici. Mon frère est mort. J'ai connu des choses horribles. La guerre, la perte de quelqu'un de cher, la douleur physique et mentale, toutes ces horreurs. Mais j'ai aussi connu le bien, l'amitié, l'accueil de personnes inconnues. J'ai connu un pays hostile et en même temps accueillant. Je m'identifie à cette famille tout en restant différent. Je rentre chez moi et je connaîtrai enfin le repos.
Connaître Cyril, Raphaël, Lucas et Robin.
Arrivée demain.
Connaître
l'arrivée des harkis dans mon village, Ongle. Au petit matin de septembre 62, je me prépare pour le travail. Je m'arrête quelques secondes devant le miroir. Je constate mes cernes prononcées et mes petits yeux fatigués. Je m'habille, bois un jus de fruits et traverse l'entrée. Je marche dans le village endormi. Après quelques minutes de marche, j'arrive dans l'établi de mon père, qui, trop concentré dans son travail, me remarque à peine. Je prends mon balai et commence à nettoyer les copeaux de bois.
Georges, le maire fera une grande annonce cet après-midi. Ça a l'air important. N'oublie pas.
Oui, père.
Le toit de la voisine est fini. J'aurai beaucoup moins de travail aujourd'hui. Si tu le souhaites, tu pourras aller à la rivière avec tes amis.
Oui, père.
La matinée passée, nous allons sur la place du village où une estrade a été installée pour l'occasion. Le maire a l'air grave et éponge la sueur de son front.
Nous avons reçu des nouvelles urgentes. Des centaines de personnes vont arriver. Ce sont des familles de harkis. Nous allons les accueillir dans notre village pour une durée indéterminée. Ils seront accompagnés d'un responsable, le lieutenant Durand, qui restera avec nous, ici.
Immédiatement, les réactions fusent dans l'assemblée. Je repars chez moi, la boule au ventre, de voir ce qui nous attend demain. Je me réveille avec une sensation bizarre. Un manque ? Non, plutôt un renouveau. Il y a du bruit dehors. Je me lève maladroitement et je sors de chez moi encore en pyjama. Je les aperçois, ils sont là, les harkis. Jeannine est déjà devant ma porte, à m'attendre pour aller les voir. Ils semblent être des millions, serrés sur la petite place du village. Mon père est à côté du maire, les yeux fatigués. Il a dû travailler toute la nuit. Dans l'agitation générale, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Mon père m'attrape l'épaule. Il tient une petite fille au visage rouge et bouffi. Et m'explique que c'est la harkie que nous allons héberger et qu'il faut que je la ramène à la maison. Je vois à son visage que je n'ai pas le choix. À contre-cœur, je salue Jeannine et prends la petite main de l'enfant. Pendant tout le trajet, je la sens fixer ma jambe. Nous arrivons à la maison où ma mère nous accueille avec un peu trop d'enthousiasme. Elle n'a pas ouvert la bouche depuis que je l'ai amenée ici. Elle passe le reste de la journée sans prononcer un mot. Cela fait maintenant 4 semaines que la petite est arrivée. Elle commence à se sentir à l'aise et nous avons pu savoir son prénom au bout de 2 jours. Yamina. Des jours se sont écoulés et je me suis rapproché de plus en plus de Yamina. Yamina était très intéressante. Elle connaissait sa culture sur le bout des doigts et savait préparer de bons petits plats. J'apprends, découvre, c'est vraiment bien. Je me sens comme renaître avec cette nouvelle vision des choses aux côtés de Yamina. Au fil du temps, Yamina et moi avons créé un lien très fort. Je la protégeais et lui apprenais notre culture aussi, même si je trouve que la mienne est bien plus fade. C'était devenu ma petite sœur, la meilleure chose qui soit arrivée dans ma vie. Je m'appelle Georges et j'ai maintenant 70 ans. Je viens de vous raconter l'arrivée des harkis dans mon village, l'une des plus belles confrontations que j'ai pu avoir avec l'humanité, qui m'a fait découvrir une merveilleuse culture, une fabuleuse culture, celle des harkis.
connaître. Timothée, Maya, Alexandre, Lilia, Gaston.
Arrivé demain.
S'exiler.
Ici, c'est l'enfer. Les balles pleuvent, le FLN nous a retrouvés. Nous étions sur la plage, prêts à embarquer. Les soldats français nous ont ordonné d'aller dans le bateau. C'est seulement une fois sur le bateau, avec ma famille, que je vois mon ami qui avait gardé son arme. Il était resté aux côtés des Français pour nous défendre. C'est mon meilleur ami, Mohamed. Mohamed, je l'avais convaincu de partir avec nous. Je lui hurle de nous rejoindre, mais il ne nous entend pas. La bataille est trop bruyante.
Le bateau commence à prendre le large, nous, à l'intérieur. C'est à ce moment-là que je vois le corps de Mohamed flottant dans l'eau. Dévasté, je tombe au sol, je me cogne la tête contre la rambarde du bateau. La douleur se répand dans tout mon corps, en partant de mon front. Un des Français s'est approché de moi et a vu ma blessure. Il fouille dans son paquetage et sort une trousse de soins. Il me la donne et repart sans un mot. Je me pense la tête et repars à l'avant du bateau. Je récupère une ration de nourriture et je la mange en silence. Je ne connais pas l'heure, même après l'avoir demandé à un soldat. Il n'a sans doute pas compris ma requête. Je me prépare à passer une nuit mouvementée. Elle sera envahie de cauchemars. La fatigue a raison de moi, je m'endors. Je suis tourmenté par de noires pensées. Je suis réveillé en sursaut par la sirène. Ma famille m'a retrouvé. Des enfants pleurent car ils n'ont plus d'espace vital.
Dès que je sors, la première chose qui me frappe, c'est la ville de Marseille. C'est une ville très différente de mon épicerie modeste et du hameau qui l'entoure. Ce hameau dans lequel j'ai passé toute ma vie. Je suis pris d'un vertige. Je me rends compte que j'ai tout quitté. Tout quitté à cause d'une milice qui n'a aucun scrupule à tuer ceux du même pays qu'elle. Les larmes montent aux yeux. Ce fardeau me brise soudainement. Toutes ces pensées me tombent dessus. Je pleure. Je pleure mon épicerie. Je pleure mon hameau. Je pleure mes amis. Je pleure. Mais nous devons quand même monter dans d'imposants camions militaires. Devant mon incapacité à faire quoi que ce soit, ma famille m'aide à me relever. Au moins, je suis pas seul pour affronter tout ça. Je continue de pleurer silencieusement tout le long de notre voyage. Nous nous arrêtons d'abord au Larzac. Certaines personnes partent pour ne plus jamais revenir. Après de brefs adieux, nous reprenons la route. Le voyage continue jusqu'à Montpellier, où d'autres personnes nous font leurs adieux. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester ici pour toujours. Ce n'est pas notre place dans le monde. Notre camion repart donc vers un petit village nommé Ongle. C'est là que je me rends compte que nous sommes presque seuls, ma famille et moi. Nous étions une soixantaine de compagnons d'exil au début du voyage. Dans ce groupe, il y avait des gens que j'avais commencé à connaître, avec qui j'avais sympathisé. Même après être arrivé, il faut toujours quitter des personnes et des choses qui me sont chères, être forcé de briser des liens. L'exil n'a pas de fin. Nous arrivons enfin à notre destination finale, Ongle, ou plutôt son hameau de forestage, juste au-dessus. Je ne connais ni le jour ni l'heure de mon arrivée, et je ne le saurai sûrement jamais. Devant l'entrée du hameau, un soldat français tenant un registre me pose une question que j'arrive à comprendre malgré mon piètre français.
Youssef Ben Saïd, c'est bien vous ?
Oui, c'est bien moi.
S'exiler. Corto, Robin, Marius, Didier.
Arrivé demain.
S'exiler. Histoire d'un harki exilé. Si Hakim se lève, c'est pour son combat, la reconnaissance de son existence. Il est vieux, il est voûté, mais il descend dans la rue.
Abandon, trahison, les harkis sont dans la rue. Abandon, trahison, les harkis sont dans la rue.
Nous sommes en 2013, à la première manifestation pour l'officialisation de l'abandon des harkis par l'État français. Il scande avec la foule. Abandon, trahison, les harkis sont dans la rue. Mais ses forces le quittent et un vertige le prend. Il a de terribles problèmes de dos depuis Palestro. Il est contraint de s'asseoir sur le perron d'un cabinet de kinésithérapeute. Comble d'ironie, il n'a pas accès aux soins. Il en aurait besoin car sa maigre retraite de garde forestier ne lui permet pas de se soigner. Sa retraite aurait dû être complétée par celle de soldat français. Depuis que sa femme et son fils sont morts lors d'un bombardement, il vit dans une solitude totale, loin de la vie et des hommes. C'est le dernier défenseur des troupes supplétives de son petit hameau désert. Tous les jours depuis ce massacre, lorsque le soleil se lève, il s'assoit sur les marches menant à son cabanon, met sa tête sur ses mains et regarde vers le lointain, le regard flou, attendant le coucher du soleil et sa propre mort.
Hameau à 37 km de Palestro, mai 1962. Aujourd'hui, à l'inverse des autres jours, il prend sa valise disjointe et craquante, dans laquelle il met l'ours en peluche de son fils, un bijou appartenant à sa femme, et il part. Il part pour espérer trouver meilleur, mais avant de partir, il se retourne une dernière fois pour voir son vécu, sa maison d'enfance, son passé.
Après quelques kilomètres de marche, il croise un 4x4 qui est stationné sur le bord de la route. Alors qu'il s'en approche, quatre hommes en armes en sortent et l'interpellent. L'Algérie, tu la veux libre ou enchaînée à la France ? Il les regarde, ne cherche pas à prendre parti et continue son chemin. Devant ce manque d'implication, le soldat du FLN s'énerve et lui assène un coup de crosse au plexus. Le souffle coupé, Hakim tombe au sol, où il est roué de coups. Quelques heures plus tard, harassé et affamé, il arrive à Palestro, où il demande le gîte et le couvert à une famille. Le lendemain matin, il interroge ses hôtes sur le moyen de quitter l'Algérie. On lui répond qu'il existe une ville à quelques kilomètres, Parname, et que le capitaine Durand y rapatrie ses hommes. Arrivé au port, Hakim apprend que le bateau est déjà parti. Il ne lui reste alors qu'un moyen pour quitter l'Algérie, embarqué clandestinement. Il se renseigne et découvre un bateau nommé Ship en partance pour Marseille. À la nuit, il monte et se cache dans la salle des machines. Épuisé, il s'endort malgré le roulis et le vacarme assourdissant qui l'environne. Il est réveillé par un choc sourd qui ébranle le navire. Rapidement, il comprend que l'embarcation est en train de couler. C'est un patrouilleur des forces françaises qui viendra à leur secours. Alors qu'il embarque, il réalise que toutes ses affaires sont au fond de la Méditerranée. Arrivé à Marseille, il est étourdi par le mouvement de la foule, le bruit des mouettes et les couleurs des containers qu'on décharge au loin. Un homme vient et l'accompagne vers un camion de la Croix-Rouge où une femme lui tend un bout de pain et une couverture. Il se rend compte alors qu'il n'a rien mangé depuis 2 jours et qu'il est affamé. Il engloutit son pain tout en remerciant d'un français maladroit la femme du camion.
Camp des militantes, Larzac, juillet 1962. Voilà le confortable accueil que la France avait prévu pour ses défenseurs, eux qui avaient tout abandonné pour le pays des droits de l'homme. Après une semaine de vie au camp, un homme avec des galons est venu appeler les hommes de son capitaine. Il leur explique que Durand a pu, avec le préfet des Basses-Alpes, les reloger dans le village d'Ongles, dans un hameau de forestage. Ongles, 6 septembre 1962. Nouveau départ, un autre long trajet en bus pour arriver finalement dans un nouveau camp de tentes, encore les mêmes tentes brunes. De nouveau, il a quitté chez lui pour arriver nulle part. Au camp, il travaille, coupe du bois, aménage des chemins dans les forêts, mais surtout il se rappelle de la guerre, de son voyage, de l'accueil des Français, qu'il n'a pourtant pas encore vu, si ce n'est en uniforme. Ces Français, qui ont laissé mourir ses amis et leurs alliés, et ont fermé les survivants dans des camps et des hameaux à l'écart des villages. Il se fait alors la promesse de ne pas mourir sans excuse de la part de ces Français qui ont laissé son fils mourir comme 100 000 autres.
France, 2016. François Hollande a reconnu, ce dimanche 25 septembre, les responsabilités du gouvernement français dans l'abandon des harkis, les massacres de ceux restés en Algérie et les conditions d'accueil inhumaines de ceux transférés en France. Le chef de l'État a prononcé cette allocution dans la cour de l'Hôtel national des Invalides, dans le cadre de la journée nationale d'hommage aux harkis. S'exiler. Louneige, Jules, Étienne, Tristan, Alexandre.
Arrivé demain.
Transmettre. Un dimanche d'automne, dans la fraîcheur du matin, un grand-père pêchait avec son petit-fils. Le soleil se reflétait dans la rivière qui coulait lentement. Ils étaient assis côte à côte, canne à pêche à la main. Ils les lancèrent dans l'eau et attendirent un poisson. Le petit-fils, qui admirait beaucoup son grand-père, décida de l'interroger sur sa jeunesse car il ne savait pas grand-chose de lui, à part que la pêche était son passe-temps favori et qu'il avait passé son enfance en Algérie.
Pourquoi, papy, tu t'intéresses à la pêche et pas à la chasse ou au ramassage de champignons ?
Oh, cela remonte à fort longtemps.
Raconte-moi tout, je veux savoir.
C'est difficile pour moi d'en parler car je ne l'ai jamais raconté à personne. Tous mes souvenirs ne sont pas toujours très clairs. J'habitais au sud d'Alger, dans une petite maison de campagne, avec mes parents, mes 5 frères et mes 3 sœurs. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, alors mon frère et moi, on aidait notre père à la ferme. En 1954, la guerre éclata et nous n'avions plus beaucoup à manger. Alors nous partions, très tôt le matin, au petit cours d'eau juste à côté de notre maison pour espérer pêcher un poisson. Un jour, pendant que nous pêchions, un groupe de 5 soldats français vint nous aborder. Ils nous ont proposé un marché. En échange de soins et de nourriture, nous devions protéger notre village. Notre mère était très malade, alors nous ne pouvons pas refuser cette offre. C'est comme ça que je me suis engagée en tant que harkie. Durant la guerre, j'ai perdu ma mère, et cela m'a beaucoup attristée. Petit à petit, à force de perdre mes proches, j'en ai perdu mes sentiments. Mon père fut emprisonné par les Algériens parce qu'il supportait la France. Je ne l'ai jamais revu. Mes sœurs sont la seule famille qu'il me reste. Pendant les 8 années de guerre, mes principales activités étaient de pêcher et de protéger mon village. Les Algériens étaient violents. Ils m'ont blessée à plusieurs reprises. La vie était très dure. J'étais découragée et je rêvais de m'en aller. À la fin de la guerre, les soldats français nous ont évacués jusqu'au port d'Alger pour quitter l'Algérie. L'indépendance avait été signée. Sur le bateau, je voyais les familles d'harkis tristes et inquiètes de ce qu'elles allaient devenir. La traversée était longue. J'avais l'impression que nous n'allions jamais arriver. Puis, à Marseille, j'ai constaté le changement de culture, mais pas de paysage. Un soldat français m'a conduit dans un bus. Puis je suis arrivée dans un petit village nommé Ongles. Il faisait froid et j'étais très fatiguée. Les habitants nous observaient de loin. Ils semblaient tout autant perdus que nous. Avec 3 autres harkis, un villageois a accepté de nous héberger dans sa grange avec les bêtes, car nous n'avions pas d'endroit ni pour dormir ni pour manger. Nous nous sommes couchés, stressés, sans savoir ce qu'il se passerait le lendemain. Un matin, on nous réveilla et on nous emmena dans un hameau de forestage que nous devions bâtir, au nord du village. On m'a placé dans un petit cabanon avec un autre harki, seul comme moi. En me baladant pour découvrir les alentours, j'aperçus au loin une charmante jeune femme.
Mamie ?
Oui, ta grand-mère. J'ai trouvé un petit ruisseau, pas loin, pour pêcher. Et un jour, ta grand-mère est venue y laver son linge. Elle ne parlait pas beaucoup, mais au fil du temps, j'ai appris à la connaître. On se retrouvait chaque jour à ce ruisseau pour discuter. Dans le hameau de forestage, la vie était très monotone. Mon travail était de couper du bois, nettoyer les forêts et planter des arbres. Je n'avais plus de repères. L'Algérie me manquait. Mais j'ai fini par m'habituer. Attention, tu as attrapé un poisson.
Ah oui, j'étais tellement absorbée que j'en ai oublié ma ligne.
Dans ses pensées profondes, il se demandait s'il allait lui donner les clés de sa maison en Algérie. Il se mit à espérer, secrètement, qu'un jour son petit-fils pourrait visiter le pays de son enfance, y découvrir tous les trésors qu'il avait quittés, le ruisseau et sa petite maison où il avait vécu presque 19 ans avec sa famille. Il alla chercher la clé dans sa voiture. Elle n'était jamais loin de sa poche. C'était tout ce qu'il avait pu emporter avec lui, en 62.
Mais qu'est-ce que c'est, papy ?
La clé de ma maison d'enfance en Algérie. J'aurais aimé y retourner, mais je suis trop vieux. Promets-moi d'y aller quand je ne serai plus là.
Transmettre. Anna, Pénélope, Léo, Agathe, Ida.
Arrivée demain.
Traverser.
Traverser. Aller d'un point A à un point B en passant par des obstacles.
Tous les habitants les regardaient comme des étrangers, car leurs parents avaient aidé l'armée française contre les indépendantistes. Abdel, 14 ans, était avec son frère Ali, qui en avait 4, et ils devaient partir. Ils étaient en danger. Des amis à eux avaient été éliminés par l'armée algérienne.
Traverser, voilà leur avenir.
Leurs parents avaient été tués par des Algériens. Ils n'avaient plus le choix. C'est le début de l'automne, Abdel doit prendre le minimum.
Le doudou de son frère, la photo de sa famille, des boîtes de conserve, ses économies, le couteau de son père, la montre de sa mère.
Il passe une dernière fois devant son miroir.
Il fait 1m70, il a les yeux bleus, la peau abîmée par le soleil, il a les cheveux noirs et ébouriffés. Il est maigre et on commence à voir ses os. Il est habillé avec un pantalon troué, un t-shirt, la veste de son père et des sandales percées, dont une a une lanière cassée.
Abdel met son sac sur le dos, son frère sur les épaules, sa boussole en main. Il part vers les ports d'Alger.
Traverser le soleil, la chaleur du désert, pour arriver à Alger. Traverser le Klef, où le courant est puissant.
En volant une barque, il a failli y perdre la vie et son petit frère s'est affaibli. Ils arrivèrent à Alger, Ali était fiévreux. Les deux frères cherchèrent un abri pour la nuit. Le lendemain, quelques indépendantistes les interpellent, leur lancent des pierres, les fouillent, les frappent et prennent toutes leurs affaires.
Sauf sa montre, qu'il réussit à sauver.
Tout ça à cause du symbole de l'armée française sur sa veste. Comme ils avaient été dépouillés, ils n'avaient ni nourriture ni argent. En passant devant un étal, il piqua une pomme et partit en courant. Plus tard, sur le port d'Alger, ils arrivèrent au poste français, où les soldats les accueillirent. Mais avant d'entrer dans le bateau, il fallait que tous les pieds noirs, ainsi que leurs animaux et leurs affaires, soient à bord. C'est seulement après que les harkis pouvaient s'installer aux places restantes. Abdel et Ali se faufilèrent avec les animaux.
Pour être sûr d'avoir une place.
Et ils se mirent dans un coin confortable. Ali s'affaiblissait, sa fièvre montait et la nourriture manquait. Le lendemain matin, Ali ne se réveilla pas.
Abdel resta là, impuissant, bouche bée, tétanisé.
Pendant tout le reste du trajet, Abdel se posa beaucoup de questions.
Comment les gens me verront ? Suis-je vraiment un étranger pour eux ? Vont-ils bien m'accueillir ? Qu'est-ce que mes parents ont fait ? Suis-je un méchant ou un gentil ? Qu'est-ce que c'est être français ? Qu'est-ce que c'est la France ?
Il avait peur dans ce bateau qui ballotte.
Traverser la mer, traverser la mort, traverser le port de Marseille, traverser la solitude, traverser le camp de transit,
traverser le silence,
traverser le sud de la France,
traverser le chaos. Pied posé, traversée finie, arrivée à ongles,
arrivée à la vie, traversée, marinette, Ida, Lassa, Sarah.
Arrivée demain.
rapatriée. Tout commence à Ongles, un dimanche de novembre 1972. Il neige. Tout le monde est content, surtout Victor, qui adore l'hiver. Cependant, il va suivre son ami, Ahmed, qui va retourner dans son pays natal, en Algérie. C'est la veille du départ, et les deux garçons font leurs bagages. Victor accompagne Ahmed, car c'est son meilleur ami. Ce dernier est arrivé à Ongles il y a 10 ans. En 1962, c'était la guerre d'Algérie. Ses parents étaient restés à Alger, dans une zone de combat. Ahmed a été accueilli à Ongles, où il s'est lié d'amitié avec Victor, qui habite au village depuis qu'il est tout petit. Victor Richard a 16 ans. Il est grand, il fait 1m90. Il a une chevelure sombre. Des yeux bleus, un nez aquilin, une mâchoire carrée et la peau couleur de lait. Ahmed a 17 ans. Il a de très beaux traits de visage. Il est grand et porte les chemises à carreaux de Victor.
Il fait froid, même à l'intérieur de la maison. Je fais mes bagages tout en me remémorant mes souvenirs passés. Ahmed est impatient de retourner dans son pays natal. Je suis heureux de l'accompagner, car il compte beaucoup pour moi. J'ai quand même beaucoup de regrets de quitter ma famille, mais je rentrerai quand même plus tard. C'est bon, j'ai plié mes affaires. On m'appelle pour le dîner. Je descends l'escalier et je rejoins Ahmed et mes parents dans la salle à manger. Nous sommes le lundi 11 décembre. Le soleil ne s'est pas encore levé, au contraire de ma famille. La neige crisse sous mes pieds lorsque nous nous dirigeons vers la voiture. Je lis sur le visage d'Ahmed qu'il est impatient de revoir ses proches. Même si je suis heureux pour lui, il ne faut pas qu'il se réjouisse trop. Tout pourrait avoir changé chez lui. À son retour, il risque d'être déçu. Après un long trajet, nous arrivons au port de Marseille. De longs adieux, et je me suis retrouvé là, à l'avant du bateau, avec Ahmed. Nos bagages à la main, le vent sifflant à nos oreilles.
Je serai chez moi bientôt. Je suis impatient, mais quelque chose ne va pas. Est-ce que tout sera comme avant? Peut-être serai-je considéré comme un déserteur. Et le plus important, comment va ma famille? Je fais part de mes inquiétudes à Victor. Il acquiesce.
C'est normal d'avoir peur, mais quand tu rentreras à Alger, il risque d'y avoir du changement.
Nous avons discuté toute la nuit de divers sujets sur la terrasse du bateau. Pour ne pas avoir trop froid, on avait pris de gros manteaux. Ça me faisait plaisir d'être avec mon ami. Son regard me fait rougir. En rentrant dans la cabine, nous nous sommes couchés. Je pensais, avant de m'endormir, que j'avais des sentiments pour Victor. Ce matin, nous sommes arrivés au port d'Alger. En sortant, j'ai pris la main de Victor. La tension monte à l'intérieur de moi. Je ne fais plus attention à l'environnement. Encore 2-3 rues, on arrive. Mes pieds s'avancent vers la maison de mon enfance. Nous sommes enfin arrivés. Mes yeux se lèvent, mais je ne vois que briques et poussière. Ma demeure et mes proches ne sont plus. Toutes sortes de sentiments me surprennent, m'envahissent et me paralysent. Peur, effroi, angoisse, affolement, incompréhension, désespoir, terreur. Victor me secoue, essaye de me réanimer, jusqu'à ce que je revienne au monde réel. Mon ami m'a bousculé et secoué pendant au moins 5 minutes jusqu'à ce que je crie son prénom. J'éclate en sanglots et je pars en courant, sans réfléchir. Plus tard, Victor me retrouve, assis, seul, mes larmes ayant séché. Sur la plage de la ville, il s'assoit à mes côtés. Sur le bord de la mer, nous sommes allongés sur le sable doux et fin. Toi, Victor, tu me réconfortes et me promets qu'on retrouvera ma famille. Il me manque beaucoup. Pour me faire oublier tout cela, pour faire évader mon désespoir, tu prends mes mains dans les tiennes et m'embrasses avec tes douces lèvres devant le coucher de soleil.
Le sens du mot « rapatrier » n'est plus le même. Ahmed n'a plus personne à Alger. Il y est comme un étranger. On commence donc à se demander ce que serait sa patrie. Serait-ce sa famille et son passé? Tout cela a disparu. Ce périple a pu faire comprendre à ce jeune homme que sa vraie famille est Victor. On peut en conclure que sa patrie, c'est les liens tissés avec ce dernier. Et que finalement, sa famille, avec qui il a vécu pendant 10 ans, vit à Ongles. Rapatriés: Maëva, Gaston, Eva, Fabio, Alexandre.